Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Ce sera notre 287e émission et notre 184e chronique. J'ai déjà consacré plusieurs émissions à Paul Lavergne, la romancière de Mézières-sur-Issoire. Une consacrée à sa biographie. Une autre à quelques-uns de ses personnages phares, comme le curé de Gajoubert, la Mion ou la Franchette. Une émission entière consacrée à son personnage fétiche, Jean Le Sceau de Mavernier. J'ai également consacré une émission à un conte de Noël de Paul Lavergne, La légende du rocher qui tourne. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits de son ouvrage « Récits de l'ancien temps ». Les bandits de Grand Chemin de Chanzigot, le loup-garou de Gringalet, Saint-Boulineau, Parou dit Charmelaire et le retour du soldat.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici l'histoire des bandits de Grand Chemin de Chanzigot. Le domaine de Chanzigot, entre Bellac et Mézières, était il y a bien longtemps un repère de brigands. Personne ne s'en doutait. Durant le jour, ils cultivaient la terre, mais la nuit, ils s'embusquaient dans les brandes et au coin des bois, pour détrousser les voyageurs. Le grand chemin du roi, semé de fondrières venant de Mézières, passait par les trous de chevaux, la Tuilière, les fosses, Chanzigot, et se dirigeait vers Bellac par l'étang rompu, la Croix de la Pile et Châtaignier, tous endroits qui, comme leur nom l'indique, étaient assez sauvages ou même sinistres. Cette Croix de la Pile ne marquait-elle pas l'emplacement d'un ancien gibet. Une fois, les gens de Chanzigot devaient recevoir à la veille ceux des fosses. Ces veillées de jadis constituaient toujours de grandes réjouissances. Elles étaient une des meilleures façons d'entretenir les relations de village à village ou de métairie à métairie. Ceux des fosses vinrent donc en s'annonçant par de joyeux ifoufou. Mais, à la maison, ils ne trouvèrent que les femmes. Ils s'étonnèrent. Les femmes gênées dirent que les hommes n'avaient pas fini de soigner le bétail, mais qu'ils ne tarderaient pas. Les autres patientèrent, on leur versa du cidre. Cependant, l'entrain n'y était pas. « Ils mettent bien longtemps, » dit l'un. « Oh !» « C'est sans doute que la rosette est en train de véler, » dit la femme, de plus en plus gênée. « Ils ont peut-être besoin d'aide. On va leur donner un coup de main. »« Ah non, 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 ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. » C'était pour le moins bizarre. Enfin, l'un des hommes entra tout essoufflé, ne sachant que dire, mais on se rendait compte qu'il était dans un grand émoi hors de proportion avec la mise bas d'une vache. « Et ton père ? A-t-il bientôt fini ? La rosette est-elle délivrée ? Ah oui, 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 il va venir, oui, il va venir. » En réalité, il avait été tué d'un coup d'épée par le cavalier qu'il tentait de détrousser. Le fils l'avait rapporté sur son dos et caché dans la grange en attendant le départ des voisins. La vérité finit par être connue et la consternation fut grande dans le pays, car personne n'aurait soupçonné de malfaisance les métayers de Chanzigot. Et par la suite, Lorsque tombaient la nuit sur le grand chemin solitaire, les petites bergères terrorisées, craignant d'être attaquées par des bandits, se dépêchaient de rentrer leurs vaches ou leurs brebis.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons nous transporter au moulin de Gringalet pour cette curieuse rencontre avec le loup-garou. C'est Madame Chevalier qui parle devant un bon feu de cheminée le soir à la veillée. Mon grand-père était farinier. En un moulin situé sur la Gartempe, un peu plus bas que le pont Saint-Martin et que l'on appelle le moulin de Gringalet. Il ne marche plus depuis longtemps. Les uns après les autres, les petits moulins ont dû fermer leurs portes. Mon grand-père livrait la farine à dos de mule. L'état des chemins ne permettait point d'employer une charrette et quelquefois, il rentrait très tard dans la nuit. Une fois, c'était à la période de l'Avent, quelques jours avant Noël. Il avait livré toute la journée et dans chaque maison, on lui avait offert un verre de cidre. Peut-être en avait-il accepté quelques-uns de trop. Au retour, il se sentit si fatigué qu'il dut attacher sa bête sous un arbre et se coucher pour faire un somme. Quand il s'éveilla, il se sentit beaucoup mieux. Il grimpa sur le dos de la mule et continua la route. C'était minuit passé, hein, et il n'y avait point de lune. Pourtant, il ne tarda pas à se rendre compte qu'il était suivi. S'il s'arrêtait, cela s'arrêtait. S'il continuait, cela continuait, mais en se tenant toujours à la même distance. Mon grand-père n'avait pas froid aux yeux, c'était à l'époque un jeune gars costaud, capable de se défendre, mais dans ces chemins encaissés entre des bois et des rochers, avec le grondement de la rivière dans les oreilles, il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Il mit la mule au trot, au risque de lui faire casser une patte en glissant sur un rocher à fleur de terre. Cela se mit au trot également derrière lui. Il arriva à Gringalet, tremblant de tous ses membres, sans avoir pu rien distinguer. Il rentra la mule à l'écurie, où la crèche et le râtelier étaient préparés d'avance, et il se dépêcha de sortir. Comme il refermait la porte, quelque chose lui sauta aux épaules, le mordit derrière l'oreille et commença à boire son sang. Il comprit que c'était le loup-garou qu'il avait guetté toute la soirée. De l'écurie à la maison, il n'y avait que quelques pas. De la lumière filtrait à travers le contrevent. Les gens n'étaient pas encore couchés, ils devaient l'attendre. Mon grand-père cria « Mettez un fagot sur le feu et ouvrez-moi vite !» Et on lui ouvrit, il entra en courant, se tournant brusquement et se secouant de toutes ses forces, jeta le loup-garou au milieu des flammes. On sait que rien ne pouvait détruire le loup-garou sauf le feu ou une balle bénite. Les autres eurent à peine le temps d'apercevoir un gros paquet bourru qui tombait dans le feu. Ils crurent que l'on tirait un coup de fusil dans la maison, les cendres volèrent de tous les côtés et dans une épaisse fumée et une odeur suffocante, cela disparut dans la cheminée. Quand mon grand-père racontait cette histoire après tant d'années, ses cheveux se dressaient encore sur sa tête.
Et son honneur splagner plora. Ma vena di rencianne retraire.
La commune de Saint-Barban possède son propre saint, Saint Boulineau. Écoutons Paul Lavergne. Du côté de la cour et de Vera, à 30 mètres environ d'une ferme nommée le Châtain, on aperçoit dans un champ une niche de pierre recouverte de lierre. Elle abrite une statue en bois qui représente un moine ou un saint en robe monacale. Les habitants de la région le désignent sous le nom de Saint Boulineau ou Saint Bouligone. Ils n'y vont pas en procession à date fixe. Le saint ne figure point au calendrier. Chacun s'y rend à son heure pour lui demander de la guérison de la constipation, des coliques ou des hémorroïdes. Et s'en trouve, paraît-il, fort satisfait. Ce culte est certainement très ancien, peut-être antérieur au christianisme. Le nom de Boulineau pourrait bien être une déformation de Belénos, l'Apollon gaulois, particulièrement vénéré dans cette contrée. Détail curieux, il ne semble pas qu'aucun prêtre vienne recueillir les offrandes laissées par les fidèles. On retrouve au pied de la statue des pièces de monnaie et des billets de 500 ou 1000 anciens francs à moitié mangés par les souris. À une petite distance, on voit très nettement l'emplacement de douves profondes et larges de plusieurs mètres. Le nom de la localité, le Châtain, semblerait indiquer qu'il existe en ces lieux un château dont il ne reste rien. Monsieur Jean-Marc Richard de Vera, qui le tient de sa famille, me dit que le Châtain était jadis un prieuré fondé par une châtelaine qui avait fait tuer son mari et qui pensait, par cette fondation, contribuer au rachat et au salut de son âme. L'édifice fut démoli à la Révolution. Les pierres servirent à la construction de la maison des Thermes à Vera. Le dernier prieur est enterré dans les bois proches, qui portent d'ailleurs le nom de bois du prieur. Il y a de grandes chances pour que ce bois ait été jadis le cimetière de la petite communauté. On dit même que ce fut une paroisse. Monsieur Richard m'apprend également qu'un important réseau de souterrains partait de l'église de Saint-Martial pour aboutir les uns au cimetière, les autres en un lieu appelé Villalet. C'est sous un noyer déraciné par le vent à cet endroit que l'on découvrit l'entrée du souterrain.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Cette musique gaie, pour nous faire découvrir un personnage gaie, par où dit le Charmelair. Il y eut dans la région quelques figures typiques dont beaucoup de personnes gardent le souvenir. À une époque où les gens se déplaçaient guère qu'à pied, où l'on recevait peu de journaux, Parou était une gazette ambulante, un colporteur de nouvelles, un trait d'union vivant entre Mézières, Briac et les Terres, en passant par Champeaux et Bussière-Boëffy, où il était né et qui était son port d'attache. Autant qu'on puisse appliquer ce mot à un être errant qui ne résistait pas à l'appel des routes et des chemins. Pouvait-on le considérer comme l'idiot du village ? Non. Non, car c'était un être loin d'être idiot, il ne manquait pas de bon sens, ni même d'humour, dans sa grosse tête penchée. Était-il mendiant de profession ? Pas davantage, car il ne mendiait point, sûr de trouver partout, sur la foi de sa bonne mine, et en échange d'une nouvelle, au besoin inventé, un gîte dans l'étable et un quignon de pain, avec un brin de fricot à tenir sous le pouce. Je le revois, noir comme un pruneau, autant de crasse que de peau, noué et déjeté par la misère, une épaule plus haute que l'autre, avec sa bosse qui faisait lever d'un côté la vieille veste du marquis Dufraisse sous celle du comte de Saint-Mathieu dont il était affublé. À Mézières comme à Champeaux, on ne l'appelait pas autrement que Charmelair, sans doute parce qu'il faisait semblant de souffler dans une charmelle lorsqu'il marquait fièrement le pas à côté du musicien en tête d'un cortège de noces. Le nom lui allait bien, avec ce qu'il comporte d'un peu enfantin et ironique, sans méchanceté. Charmelair servait plus souvent que paroux, et Charmelair était partout dans toutes les solennités de la vie, au baptême, aux noces et aux enterrements. Il était aux frairies et aux battages, et selon le cas, il riait, dansait ou pleurnichait. Moyennant quoi, il estimait avoir droit à la pitance, et d'ailleurs, nul ne la lui refusait. Le plus ancien souvenir que j'ai gardé de lui est le suivant. Il racontait comment il avait dérobé un œuf dans le poulailler de sa mère. La poule venait de chanter, proclamant qu'elle avait pondu. La femme s'empressait pour ne pas risquer de perdre l'œuf, mais il n'y était déjà plus. Jean l'avait chipé et gobé tout chaud, et il se vantait ainsi de son exploit. La pintavo chantait, la poule de ma mère, elle chantait, ma mère cherchait l'œuf, et moi, je l'avais gobé. C'est le mot pintavo, employé pour chanter, qui m'avait frappé. J'ignorais certes à ce moment-là que dans le roman de Renard, la poule avait nom d'âme peinte. Oh, je ne pense pas que Parou le sût davantage. S'il l'employait, c'est que sa langue ne pouvait mieux faire, son langage comme sa pensée, étant toujours demeuré au stade infantile. Il méprisait l'argent et n'en connaissait pas la valeur. Si on lui donnait à choisir entre une pièce de 10 sous d'argent et une de 2 sous en bronze, il prenait invariablement les 2 sous parce que c'était le plus gros. Quoi qu'il en soit, Charmelair avait conquis le cœur de tout le monde. Il termina sa pauvre vie qu'il n'aurait point changée pour une meilleure à l'hospice de Bellac, où le maire de Bussière-Boffy l'avait fait entrer.
Pauvre soldat, revenant de guerre, pauvre soldat, revenant de guerre, tout déchiré, tout dépouillé, sans savoir où se loger. S'en vint loger dans une auberge, s'en vient loger dans une auberge, demande à boire et à manger, monsieur pourrez-vous me payer ?
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Une autre version du pauvre soldat revenant de guerre, celle du fils Rambaud de Massignac, que nous rapporte Paul Lavergne. À une époque où le recrutement des armées s'effectuait par tirage au sort et où l'on restait 7 ans sous les drapeaux, bien des jeunes gens, faute de savoir écrire, ne donnaient plus signe de vie à leurs parents. On les considérait comme morts, ou bien, s'ils revenaient, ils étaient méconnaissables. Après la Révolution, Quentin Rambaud avait acquis au titre de bien national provenant de son ancien maître émigré la belle ferme qu'il exploitait au Clusot dans la commune de Massignac. Lui et ses enfants étaient fort à leur aise, mais le petit-fils ne se plut pas à cultiver la terre. Il voulut voir du pays. Et pour cela, pensait-il, la meilleure solution était de partir soldat. Dispensé du service comme fils aîné, il ne trouva rien de mieux que de se proposer comme remplaçant. C'était autorisé par la loi. Certains en faisaient leur métier, ils s'enrôlaient, moyennant finances, à la place des riches qui avaient tiré un mauvais numéro ou un bon pour le service. Les gens les accusaient d'être de fortes têtes et d'avoir un poil dans la main pour gagner ainsi l'argent sans travailler. Cela ne plaisait pas à Quentin Rambaud et à sa famille. Le jeune homme partit cependant et même il renouvela son engagement. Durant les 14 années de son absence, il n'écrivit qu'une seule fois. il ne fit pas non plus parvenir de ses nouvelles par d'autres militaires qui rentraient au pays. Ceux qu'on interrogeait ne le connaissaient pas, aucun d'eux ne l'avait jamais rencontré. Sa famille en conclut qu'il était mort. Or, un jour, sa mère était sur le pas de la porte lorsqu'elle vit venir un cheminot hirsute et déguenillé qui lui demanda à manger. Il expliqua qu'il arrivait de l'étranger, rapatrié sur une galère, qu'il avait débarqué à Marseille et que depuis un mois, il allait à pied par les chemins. La pauvre femme, très émue, se mit à lui raconter qu'elle avait un fils parti soldat depuis 14 ans et dont elle n'avait jamais reçu de nouvelles. Dans son trouble, elle continuait son récit en patois et l'homme avait l'air de très bien comprendre tout de même. Voyant cela, elle se dit qu'il était peut-être son fils. Mais elle avait beau l'examiner, elle n'arrivait pas à le reconnaître. Comment se fait-il que vous vous soyez écarté des grandes routes pour arriver dans ce village, demanda-t-elle, espérant qu'il dévoilerait son identité. Mais il se contenta de dire « Je connais le pays pour y être venu autrefois ». Alors la pauvre femme pensa qu'elle s'était trompée et elle n'osa plus rien lui demander. Elle lui servit à manger, mais l'os qu'elle voulut lui porter à boire, il n'y tint plus, il se leva en disant « Vieille, hein, donne-moi le pichet !» Et il se dirigea sans hésiter vers le cellier pour tirer du vin à la barrique. Alors elle le reconnut, et lui, qui avait craint d'être mal accueilli, put enfin serrer sa mère dans ses bras. On raconte qu'il revenait avec une ceinture pleine de louis d'or. Ceinture qui fut pieusement conservée dans la famille. Mais, à la fin, il n'en restait plus que la boucle. Celle-ci fut longtemps un objet de vénération et le prétexte à recommencer maintes fois le récit des aventures du soldat.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à quelques extraits de l'ouvrage de Paul Lavergne, Récits de l'ancien temps. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.